Actu SF, les podcasts.
Alors, merci pour d'avoir patienté quelques instants pour cette masterclass, conférence autour de la fantasy épique. Fait-elle toujours recette ? Alors, il y aura à la fin des petites questions-réponses si vous avez aussi, si vous voulez vous exprimer et poser des questions à nos auteurs. On a les quatre mousquetaires aujourd'hui de la fantasy épique. Alors, il y en a un, il fait semblant de lire quelque chose, c'est Pierre Bordage. Est-ce qu'on a besoin de présenter Pierre Bordage ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre a fait pas mal de science-fiction, même beaucoup. Et il s'est lancé dans la fantasy il y a peu avec Arcane, un diptyque qui est aux éditions Bragelonne. Voilà, à ses côtés, il y a Romain Delplanque, qui est édité à l'homme sans nom, et il a fait une série qui s'appelle Le sang des princes, qui est publiée en poche chez Folio, et qui raconte le destin des ducs Spaldietra, avec moult péripéties. À ses côtés, il y a Grégory Darosa. Donc, Grégory a écrit Sénéchal aux éditions Mnemos, et le premier volume vient de paraître aux éditions Folio SF aussi, et cela raconte comment un sénéchal doit sauver sa ville d'un siège. On en reviendra. Et enfin, Gabriel Katz, qui a écrit beaucoup de séries chez Scrineo, et là plus récemment chez Bragelonne. Il revient avec Le Serment de l'Orage, qui raconte la geste de deux chevaliers dans une aventure épique et aussi un peu fantastique. Voilà. Voilà les quatre mousquetaires de la fantasy épique. Mais on va commencer ensemble avec peut-être un peu d'actualité. Je suppose que vous avez tous vu ou entendu parler d'une série assez épique qui s'appelle Game of Thrones, qui a on racontera pas la fin pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, mais j'aimerais bien demander à nos amis qu'est-ce qu'ils ont pensé de Game of Thrones, dans le sens où, au niveau d'une fantasy épique, on a rarement vu, la dernière fois c'était Le Seigneur des Anneaux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une fantasy qui a autant réuni les gens et la foule. Pierre, est-ce que tu peux commencer ?
Personnellement, je suis un accro de base à Game of Thrones, mais j'ai découvert la série assez tard. Il y avait six saisons qui étaient passées quand je me suis intéressé à la série, ce qui fait que j'ai aligné les six années de suite. Par raison de 3-4 épisodes par jour pendant X temps. Donc je me suis pris une overdose de Game of Thrones, et après je me suis retrouvé comme un con parce qu'il n'y avait pas la suite et qu'il fallait attendre comme tout le monde, quoi. Et donc j'ai attendu avec impatience les deux dernières saisons, et donc j'ai vu la fin aussi. Donc maintenant bouchez-vous les oreilles, je vais tout vous raconter. Et j'ai vraiment adoré, je me suis beaucoup attaché au personnage. Je fais partie des gens qui ont spéculé sur les fins éventuelles. Enfin, ça m'a fait un peu travailler l'imaginaire. Et pour moi, c'était une belle réussite, avec quelques petites réserves sur la fin, mais bon, ça n'a pas gâché mon plaisir.
Romain.
Moi, je fais partie des lecteurs approfondis du bouquin, et ouais, j'ai été fan assez longtemps de la série, et j'avoue que ça fait 2-3 saisons, par contre, que j'ai eu pas mal de réserves. Mais en reconnaissant parfaitement que au niveau des quelques épisodes épiques, justement, on n'avait pas vu ça depuis. On n'avait juste pas vu ça, en fait. C'est vrai qu'ils ont eu le malheur de claironner partout qu'ils allaient mieux faire que la bataille du gouffre de Helm des deux tours. Et ce qu'ils n'ont pas fait, je trouve. Vraiment. Désolé, hein, pour eux. Mais oui, sinon, moi, je fais partie j'ai relu plusieurs fois les livres et revu plusieurs fois une bonne partie de la série, donc ouais.
Alors moi, je vais commencer le débat de suite. Je trouve qu'ils ont largement réussi à faire une bataille, des batailles qui étaient très, très, très épiques et très impressionnantes pour une série, en fait. On est très loin d'Hollywood avec ses films à je ne sais combien de millions. On reste sur une série, et ils ont fait une bataille des bâtards, rien que celle-ci, quand les armées se rencontrent, le choc des chevaux, je veux dire, ça a été, je pense que tout le monde le visualise, le choc visuel que ça donne. Là, on est clairement dans un truc qui n'a jamais été vu dans la série. La série elle-même, juste par son financement, par sa démesure, est épique. Ensuite, c'est l'histoire aussi est épique, mais rien que la démesure de tout ça, nous on a participé à cette aventure qui est épique en soi. Donc il y a aussi la bataille, celle avec les marcheurs blancs, mais bon, on ne va pas trop en parler parce que c'est vrai qu'on ne va pas spoiler. J'aimerais juste dire en quoi peut-être le trône de fer est épique. Parce que oui, il y a relativement peu de batailles finalement, mais on a une pléthore de personnages, donc là on va vers quelque chose de gigantesque. Pour moi, elle est épique dans le sens où il y a de la démesure tout le temps. On a une pléthore de personnages, on a un monde gigantesque dont on découvre seulement Westeros, et ensuite on découvre qu'il y a à côté Essos, et puis l'autre c'est Sotaeros, je crois, en dessous qu'on ne fait qu'effleurer à peine. Donc il y a des mesures géographiques, il y a des mesures des personnages, il y a des mesures de l'intrigue, des complots de partout, et ces batailles qui sont très visuelles. Mais pour moi, on peut pas seulement dire qu'une fantasy est épique juste parce qu'il y a un visuel magistral, quoi, même si ça y participe.
Gabriel.
Bon, la question est un peu douloureuse pour moi, en fait, parce qu'on a vécu une très très belle histoire d'amour, Game of Thrones et moi, c'était incroyable, et on s'est un peu séparés au dernier épisode, et pas en très très bons termes, en fait. Donc je suis encore très très mal, j'ai le cœur brisé et tout, c'est très dur, donc je verse des larmes de temps en temps, ça m'arrive le soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à mon humble avis, le côté épique, qui était extraordinaire, qui était un véritable souffle comme on n'en avait jamais vu, qui vous poussait dans le dos, ils l'ont tellement aimé, le côté épique, qu'ils se sont dit, on va mettre de l'épique pour de l'épique. Donc à la fin, la toute dernière saison, qu'on va essayer de ne pas spoiler, il y a des moments qui sont stupidement épiques. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que les Dothraki vont là-bas? Voilà, par exemple, ceux qui l'ont vu, voilà, ils vont là-bas et tout d'un coup, tout s'éteint. Donc bon, il y a un moment où c'est trop, en fait. Il y a un moment où le showrunner, on lui dit, ta série est la plus fantastique du monde, et c'est vrai, et on va te donner beaucoup d'argent. Et le showrunner, il dit, mais je vais les calmer, je vais faire de l'épique qui tue la mort, et j'oublie de faire un scénar. Donc à partir de là, c'est très, très, c'est terrible, parce qu'on parle vraiment de la plus belle histoire qui soit, de la plus belle série qui soit, et au bout d'un moment, ils sont dévorés par leur propre besoin de faire du spectaculaire. C'est un peu dommage. Je me dis qu'avec le spin-off, peut-être je vais renouer avec Game of Thrones. Mais pour l'instant, on est vraiment séparés. C'est très triste.
Alors, on va, Gabriel, vous allez continuer à nous répondre. J'ai demandé à chacun d'entre vous, c'est quoi votre vision de la fantasy épique? Parce que vous avez quand même des livres très différents, tous les quatre. Donc, vous avez aussi sûrement une vision différente. Gabriel, la fantasy épique, pour toi, c'est quoi?
Pourquoi pour moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est la fantasy épique, honnêtement. C'est une alternance de... C'est un petit peu comme dans une série de télé, finalement c'est pas pour rien que je suis scénariste, c'est une alternance de montée en pression qui arrive vers des climax un petit peu violents. Donc, somme toute, dans mes livres, qu'on qualifie assez souvent d'épique, il n'y a pas grand-chose de très très épique. C'est de temps en temps, il y a une grosse décharge qui donne l'impression que c'est beaucoup d'action. Somme toute, c'est surtout la montée qui compte. C'est vraiment la construction et la montée vers quelque chose de terrible. Alors là, comme vous n'êtes pas beaucoup, je peux vous spoiler terriblement la fin de Puits des Mémoires 3, qui est ma première trilogie. Où les gens attendaient quelque chose de terriblement violent, une conflagration mais terrible, etc. Ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu pour des raisons diplomatiques assez fortes. Et il y a une partie des lecteurs qui adoraient ça, et une partie des lecteurs qui me disaient « Mais pourquoi on n'a pas une grosse bataille rangée avec des milliards de cavaliers qui chargent ?» Les cavaliers sont là, ils attendent, et la bataille n'a pas lieu. Voilà, je vais terriblement spoiler le truc. Mais bon, ce qui amène est un peu complexe. En fait, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. C'est le fait de faire monter les curseurs jusqu'au moment où le lecteur se dit... Il faut que ce soit un peu orgasmique quelque part. Il se dit, je veux que ça pète. Ça marche ou pas?
Grégory.
Alors du coup, Gabriel est vraiment dans le spectaculaire concernant la fantasy épique. Bon, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. J'ai un peu avancé. Pour moi, quand c'est épique, c'est que vraiment on a une dimension géographique gigantesque, un monde qui s'ouvre énorme. Ces personnages qui sont extrêmement nombreux, ces intrigues qui se nouent, qui se dénouent. Et du coup, oui, on tend quasiment tout le temps vers quelque chose qui explose. Mais c'est épique aussi dans sa démesure, ou du moins dans son grand écart. C'est-à-dire qu'on peut faire monter la sauce pendant tout le roman, et c'est vrai que ça peut être réglé par un petit truc, genre par exemple une certaine fille qui plante un poignard dans le ventre d'un grand méchant, et c'est réglé. Voilà. Mais c'est épique finalement, parce qu'on a fait monter la sauce comme ça, on nous promet ça et on nous donne ça. La chute est épique, je veux dire. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Moi, je vais, alors pour continuer à souffler un peu dans ce sens-là, Moi, il me semble que là où la fantasy permet d'apporter un épique qui lui est assez propre, c'est qu'elle nous permet d'entraîner au fur et à mesure qu'on construit notre récit autour de quelques personnages, leur cercle intime, leur cercle de plus en plus. C'est qu'au fur et à mesure, on entraîne de plus en plus de monde dans l'événement, de plus en plus de personnages. Et alors là, je parle un peu en mon nom, mais c'est vrai que dans le Sang des Princes, c'est un phénomène. Plus on avance, plus on dézoome, en fait. Et alors qu'on part d'une histoire familiale, au fur et à mesure, les implications par connexion successive finissent par engager des régions, des états, etc. Et ce que la fantasy permet, c'est à la fin, c'est on caractérise le monde d'un coup par ses contradictions, ses confrontations internes, en l'entraînant derrière les personnages qu'on a mis en branle. Et on parlait de Game of Thrones tout à l'heure. C'est presque la caricature de ça, puisque en utilisant les enchaînements les relations de suzeraineté, de vassalité, etc., la plus petite brouille entre deux personnes ou le plus petit inceste familial, etc., suffit pour tout faire péter. C'est presque la caricature de l'intrigue épique. Donc voilà, pour moi, la fantasy épique, c'est celle qui en fait permet de balancer au bout d'un moment des masses, des foules de gens, etc.
Je vais un peu parodier Spinrad quand il disait que ce sont des livres de science-fiction ceux qui paraissent dans les collections de science-fiction, en disant que la fantasy épique, c'est celle qui laisse un sentiment d'épique au lecteur, finalement. Quel que soit le procédé utilisé, ça peut très bien être sans un côté très spectaculaire, mais juste parce qu'il y a une évolution des personnages intérieurs tellement vertigineuse que ça donne un sentiment d'épique déjà. Par rapport à l'Antiquité et à des textes très anciens comme Gilgamesh, c'est très épique alors que ça concerne un personnage qui n'a pas forcément des enjeux guerriers extraordinaires, mais c'est quand même une épopée, dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui va chercher la plante d'immortalité. Et donc rien que l'idée de parcourir le vaste monde pour aller à la recherche de quelque chose d'extraordinaire comme la plante d'immortalité, ça donne un côté épique. Là, parallèlement, je suis en train de relire le Ramayana, donc une grande épopée indienne qui est l'un des deux textes fondateurs de l'hindouisme. Là, on a des dimensions, mais c'est carrément de la folie. On a des rigolos à côté, parce que là, le gars, quand il va faire la guerre, quand le singe Hanuman va faire la guerre au démon Ravana sur l'île de Ceylan, il convoque une armée de milliers, 10 milliers de singes et 10 milliers d'ours. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Les démons sont quand même assez dangereux. Et donc là, on a toute cette dimension complètement extraordinaire des personnages, où Hanuman lui-même peut devenir de la taille d'un chat, ou se transformer en une sorte de géant qui bondit. Alors ça, c'est une scène qui m'a beaucoup amusé, parce que il bondit du sud de l'Inde jusqu'à Ceylan en un seul vol, en un seul bond. Et il y a un dieu qui est compatissant, qui lui dit je vais lui mettre une montagne au milieu pour qu'il se repose un peu, le pauvre. Et donc il fait soulever une montagne juste sur la route de Hanuman. Et la montagne lui dit Hanuman, tu veux bien te reposer là si tu veux? Et non, j'ai pas le temps. Et il continue son bond et il arrive directement à Sri Lanka, à Lanka. Donc ça, c'est une dimension épique différente, mais aussi incroyable. Et je pense que chaque l'Iliade et l'Odyssée, pour moi, c'est aussi une dimension épique. Enfin, là, il y a la guerre, il y a l'affrontement, il y a le voyage, il y a la notion de voyage, déplacement, l'immensité géographique dont tu faisais part tout à l'heure. Donc il y a plein de façons d'être épique. Je pense que c'est simplement un mouvement qui correspond à un mouvement intérieur des personnages et qui peut-être suscite le mouvement intérieur du lecteur.
Alors on va passer à un moment qui va être un peu les conseils d'écriture, un peu les dessous de l'écriture. Comment dans vos récits, hein, dans vos livres, vous avez tous des scènes de bataille, alors à plus ou moins niveau, plus ou moins grand niveau, d'échelle. Comment on fait pour écrire une scène de bataille? Comment vous écrivez les scènes de bataille? Comment
on
les préparez?
Parce que regardez, quand vous donnez un coup de poing ou un coup d'épée, ça se fait en une fraction de seconde. Et rien que vous, pour dire la phrase « il donne un coup d'épée dans le ventre de son adversaire », ça prend déjà 4 secondes. Donc vous êtes sans arrêt obligé de tricher, puisque l'écriture ne correspond pas au temps réel. Évidemment, dans le cinéma, comme dans la série Game of Thrones, les scènes de combat sont en temps réel. Donc on voit cette espèce de choc très spectaculaire. Mais dans l'écriture, on est tout sans arrêt. Enfin, moi, je me sens sans arrêt comme un tricheur. qui donne des éléments pour faire croire que c'est très rapide et très violent, mais c'est de l'écriture, donc ça prend du temps. L'écriture, c'est du temps décomposé, et j'ai l'impression que tout est ralenti, et il faut quand même donner une impression de vitesse, et techniquement, c'est très compliqué. Moi, je pense que les deux scènes les plus compliquées à écrire en roman, en fantasy, ou en SF d'ailleurs, ou dans toute forme de roman, sont les scènes de combat et les scènes de sexe, parce que ça s'apparente sur beaucoup de choses d'ailleurs.
Ouais, ben moi je vais un peu rebondir là-dessus. En fait, les scènes de bataille, elles sont un peu contradictoires avec la manière dont on écrit pour le reste du temps, parce que c'est des scènes collectives en fait. Or, l'écriture, c'est d'abord un art temporel. On dit une chose après l'autre. Et le temps, c'est une considération qui est d'abord intra-individuelle. On donne le temps de quelqu'un. Et or, quand on se retrouve à écrire des scènes de bataille qui mettent en jeu 500 000, 10 000 personnes, on se retrouve à devoir essayer de faire comprendre ce qui se passe pour ces 10 000 d'un coup. Et donc on se retrouve plus à devoir essayer de faire un tableau plutôt qu'une narration. Donc moi, j'ai eu l'impression, il y a deux grandes scènes de bataille dans le tome 2 du Sang des Princes, une bataille navale et une bataille rangée terrestre. Et dans les deux cas, c'est presque c'est du pointillisme, ça c'est qu'on essaie de donner des points de couleur, de créer une fresque en fait, d'essayer de créer un tableau selon l'ambiance que la bataille a l'air d'avoir, c'est-à-dire si elle se caractérise par un déluge d'artillerie, on va avoir une espèce de tableau de sombre, de cendres qui tombent, d'explosions fugaces, de feu, personne n'y comprend rien, personne n'y voit rien, etc. On se retrouve beaucoup plus, je trouve, à essayer de peindre une espèce de grand tableau. Après, je vous avoue qu'on triche aussi, c'est-à-dire que il y a la bataille générale et puis il y a les points de vue au sol où on va suivre quelqu'un, et là effectivement on retourne dans la temporalité très personnelle, et là pour le coup moi c'est plus l'idée qu'on ne comprend absolument pas ce qui se passe au sol, parce que quand il y a 10 000 personnes qui se battent, une personne sur ces 10 000 ne comprend rien. C'est pas possible. Personne ne sait ce qui se passe en fait, à part même jusqu'à l'époque moderne, quand on a commencé à avoir des communications instantanées et qu'on a commencé à pouvoir comprendre ce qui se passait sur des grandes zones. Avant ça, on donne les ordres au début, et après c'est quasiment, tout le monde espère que ça se passe bien. D'autant plus ils avaient des casques, ils n'entendaient rien. Enfin bref. Donc il y a cette impression de on ne sait pas, on se bat, on essaie de survivre, on essaie d'être le plus rationnel possible. Et voilà, c'était mon petit jeu.
Alors pour moi, j'ai plusieurs phases. Déjà, phase préparatoire, on va dire, je me documente beaucoup parce que je suis dans une idée de réalisme médiéval, ou du moins d'ambiance réaliste. Donc j'essaye de pas faire en sorte que mes personnages avec un cure-dent rouillé traversent toute une armure, quoi. Ça c'est pas possible. Je me renseigne aussi sur la polyurcétique. Voilà. Par exemple, tu parles de Game of Thrones encore, on va y rebondir. Par exemple, quand ces trébuchets balancent leurs boulets et que les mecs en avant-garde ils partent sur, pendant 5 minutes d'un plan, ils sont au grand galop, et vous avez le trébuchet qui a une portée de quoi, je sais pas, 200, 300 mètres grand maximum. Les boulets trébuchés, c'est des astéroïdes en fait. Vous voyez, c'est les trucs, ils parcourent 10 km, ce n'est pas possible. Donc ça, j'essaye d'éviter de le faire, donc la documentation, premier point. Ensuite, quand je viens à l'écrire, alors souvent, c'est vrai que je suis en transe, alors j'ai du mal à savoir un peu ce que je fais, mais je joue sur les rythmes des phrases. Il va y avoir des phrases courtes, percutantes, des phrases un peu plus longues. Enfin, il y a un jeu de rythme pour justement, comme disait Pierre, essayer de mentir un peu au lecteur. On fait croire que ça va très vite, alors qu'au final, on lit un paragraphe. Et ensuite, dans Sénéchal, vu que c'est un roman plus intimiste, mais qui est dans une fantaisie épique, parce que le monde est énorme, il y a des pléthores de personnages, tout ça, il y a des moments de tension. Je suis dans un roman intimiste parce que c'est narration à la première personne. Donc j'ai décrit ça du point de vue du personnage. Donc en fait, c'est vraiment du bruit et de la fureur qui l'entoure. Donc il y a ce côté oppressant. Et les seuls moments où finalement il a un point de vue, un point de hauteur, où il peut voir un peu où en est la bataille, parce que la plupart du temps, dans une bataille, concrètement, sauf quand on donne les ordres au début, après c'est bon, bah débrouillez-vous les mecs, hein, sauf si on suit son porte-bannière et tout ça. Mais enfin voilà, c'est donc les seuls moments où il a un point de vue, c'est quand je le fais aller sur un point haut, il voit la tour et il est sur la tour et puis il voit à peu près où ça en est et où il se dit bon, ça pue un peu. Et voilà, donc c'est ma façon de voir la bataille dans ce roman. Ceci dit, bon, après je verrai bien dans les prochains comment je la traite. Voilà.
Moi, je croirais plutôt au pouvoir de l'immersion, en fait, en bataille. Le problème de la bataille rangée ou de la bataille spectaculaire, épique, etc., c'est qu'elle est très chouette dans l'esprit de l'auteur. Et à partir du moment où il la couche sur le papier, s'il la couche sur le papier comme quelque chose... On parlait de tableau tout à l'heure. Ça peut être très bien fait quand on a le talent pour. Le tableau, moi, je le sens pas. Donc, je pars du principe que si je fais un tableau, il risque d'être joli et chiant, passez-moi l'expression. Donc c'est un petit peu comme à l'école, on essaye de vous apprendre les histoires des batailles en vous donnant des dates et des chiffres. C'est extrêmement ennuyeux. Si on vous mettait dans la peau du type qui est dans la tranchée, qui tremble parce qu'il a peur et parce qu'il a froid et parce qu'il comprend rien et parce que ça explose autour de lui, je pense que les gamins s'y intéresseraient. Là, c'est un peu le même principe. Une bataille, je la gère un petit peu sur une problématique, c'est où on place la caméra. C'est vraiment ça. Et la caméra va bouger au fur et à mesure du chapitre. C'est-à-dire que généralement, je conçois mes chapitres dans mes livres vus d'un personnage. C'est généralement ça, c'est un personnage, je vais les suivre pendant le chapitre suivant, on va voir un autre angle. La bataille, c'est différent, la caméra va bouger et on va changer d'angle au fur et à mesure. Donc, premier angle, machin est là sur son cheval, il attend, il n'est vraiment pas rassuré, il baisse sa visière, il prie, il sort son épée en disant que c'est la première fois qu'il la sort, il aimerait bien que ce soit pas la dernière, etc. On va rester un petit peu sur lui, ça va blaster de son côté. Et au moment où il lui arrive quelque chose, ou même on peut même le laisser sur place comme on fait dans une série, la caméra change et on passe sur l'archer qui est au sommet de la tour, qui se dit « bon, j'encoche ma flèche, ils sont en train d'arriver, ils sont à 150 mètres, 100, 80, 70, etc. » Donc plus on bouge la caméra dans cette bataille, plus on reste dans l'angle finalement presque intimiste, plus je crois le lecteur arrive, un, à visualiser la bataille, deux, à se sentir, à faire partie de la bataille. Parce que finalement, si je prends vraiment beaucoup de hauteur en me disant bah, « écoutez, je vous explique que la troisième cohorte est en train de bouger, la cinquième se met ici, là, la cavalerie charge et les archers vont réagir », je vais être soporifique. Donc je crois que c'est vraiment, c'est encore une question de caméra. Donc je parle terriblement scénariste, mais je crois que c'est ça.
On voit que c'est, en tout cas, tout ce qui est épique ou fantasy épique reste très populaire au niveau du grand public. Tu as évoqué le gouffre de Helm tout à l'heure, qui a beaucoup marqué. Puis pour ceux qui connaissent un peu les éditions Bragelonne, je ne sais pas si vous vous souvenez de Légende de David Gemmell, avec une couverture bleue et une hache qui avait aussi beaucoup marqué. Ça a été vraiment un des premiers grands succès de Bragelonne. Là, Game of Thrones avec ses batailles, on a l'impression quand même que tout ce qui est épique, qui encourage le public ou qui donne voilà, des sentiments d'épopée, de bravitude ou autre, c'est quand même quelque chose que le public apprécie, non, Gabriel?
Je ne sais pas vraiment, en fait. Je me suis toujours demandé si le public appréciait justement les grandes démonstrations épiques parce qu'on le pousse à ça, ou parce que vraiment c'est ça qu'il demande. C'est très très compliqué de le savoir. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je sais que très souvent on a tendance à mettre de l'action dans des livres qui n'en contiennent pas forcément, en disant le public va s'ennuyer. C'est pas forcément le cas. Moi je crois réellement au pouvoir effectivement galvanisant de ce phénomène là, mais j'ai pas de réponse à ça honnêtement.
Grégory,
Je dirais que l'action pour l'action, c'est vrai que ça va fatiguer peut-être le lecteur autant que le spectateur. Du coup, je vais prendre l'analogie avec Sénéchal, mais l'action arrive comme une délivrance de la tension que j'ai mis tout le long du roman. C'est-à-dire qu'il y a des scènes ponctuelles d'action où ça explose, et ça vient vraiment, c'est parce que j'ai tout ramassé pendant un certain temps, on sent que la tension monte, et ça vient presque comme une récompense et un souffle aussi pour le lecteur, donc je pense que du coup il apprécie aussi. Alors après il y a toujours ce jeu visuel, tout ça, mais de là à dire que ça marche juste parce que ça explose, par exemple, si je schématise, hein, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il faut, le lecteur ou le spectateur, il est pas bête, il veut toujours une raison ou une cause à cette action effrénée, quoi. Soit parce que ça arrive comme une délivrance, soit parce que c'est... Enfin, voilà. Après, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait le succès, sinon on serait tous milliardaires et on aurait fait un Game of Thrones bis, je pense. non, seulement millionnaire. Désolé.
Bah ouais, je vais dire à peu près la même chose, mais ça dépend de ce sur quoi on a basé la montée en puissance du livre. Tu parlais de légende, l'histoire, toute l'histoire de légende, c'est le fait même qu'on attend cette bataille, et qu'on attend même qu'ils la perdent, parce que dès le début ils savent qu'ils vont, je spoil rien, hein, dès le début ils savent parfaitement que c'est complètement plié d'avance. Donc c'est presque aussi une histoire sur la montée en tension elle-même. Et Game of Thrones, c'est un peu pareil. Les batailles arrivent à des moments où pendant longtemps, on nous la promettait, on nous promettait telle bataille entre telle faction, les options diplomatiques ont été épuisées, ou alors telle personne qui pouvait faire la paix se fait assassiner. Enfin, bref, il y a des... Donc ça dépend. Si je parle en nom par exemple, mes scènes de bataille sont assez rapides. J'ai essayé de les faire les plus percutantes et les plus rapides possibles, parce qu'elles ne sont pas en soi la clé de la tension que je construis entre mes deux familles principales et entre mes personnages. Elles interviennent vraiment pour... comme élément, j'ai envie de dire, de la modification sociale qu'est en train de subir le monde suite à une course aux armements, etc. Et c'est le moment où on voit d'un seul coup les effets de ce qu'ont fait les personnages en fait jusqu'ici, les effets à grande échelle. Mais moi, c'est vrai que je me suis pas... par contre, il fallait que ce soit rapide, que ce soit percutant, pour que d'un seul coup, on comprenne que ça... Voilà. Mais par contre, si j'avais passé effectivement toute la fin du livre sur une très longue bataille, etc., ce qui aurait peut-être fonctionné pour un autre récit n'aurait pas été nécessairement plu au lecteur à ce moment-là, parce que c'était pas le cœur du sujet. Voilà.
On n'écrit pas, enfin moi je n'écris pas des livres en fonction du public, des attentes du public, mais en fonction de l'histoire qui se déroule. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un succès non plus. Je ne sais pas ce qui fait la clé d'un succès. Donc je suis vraiment mon histoire. Ce sont les personnages qui dictent leur tempo ou le tempo de l'histoire, et je le suis au maximum. Donc il n'y a aucun calcul de ma part, jamais. Si la scène suivante nécessite d'être une bataille, ce sera une bataille. Si ça nécessite d'être une discussion, ce sera une discussion. Mais il n'y a aucun calcul à aucun moment de quoi que ce soit, parce que je pense qu'il n'y a pas de clé de succès. Il n'y a pas de copie à faire sur un succès quelconque. Ou refaire un Game of Thrones bis ou terre ou quattro, ça vient pas à grand chose. Donc je pense que chaque auteur a sa propre sensibilité et développe sa sensibilité, et donc fait son histoire à lui avec ses événements, en suivant l'histoire au maximum. Moi, ce sont les personnages qui vraiment m'entraînent dans leur univers, et je suis très peu structurel. Donc je vais avec mes personnages dans leur histoire, ils me montrent leur univers, ils me montrent leur histoire, s'ils ont besoin de fuir à un moment, s'ils ont besoin de combattre à un moment, et je les respecte énormément, et je suis exactement leur tempo à eux. Donc voilà, après ça donne de la fantaisie épique ou pas, je ne sais pas, je peux pas calculer d'abord, hein, si je fais un roman de fantaisie épique. Je sais que je fais un roman de fantaisie parce qu'il y a un peu de magie, et puis ça se passe plus ou moins dans un univers médiéval, bon, merveilleux médiéval comme on dit. Mais je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire comme type de livre. Quand j'ai fait ma première série, Les Guerriers du Silence, c'était du space opéra, je ne le savais pas. Je ne savais pas que ça s'appelait space opéra, je ne savais pas que c'était un genre bien codifié. Moi, je suis allé innocemment parce que mes personnages sont arrivés, m'ont dit, ben voilà, ça se passe sur telle planète, Pour y aller, il faut des vaisseaux spatiaux, pas des chevaux. Donc c'est plutôt une catégorie de genre qui s'appelle le space opéra. Et j'ai appris après. Donc je ne fais aucune analyse de ce que va être le livre avant, je le sais après.
Quand on pense à fantasy épique, on pense aussi à des scènes d'action, mais aussi à des scènes de violence.
Ouais.
Quel rapport vous entretenez-vous avec la violence dans vos livres ?
Un rapport très malsain, pourquoi ?
Surtout toi, Pierre. On connaît ton rapport à la violence dans tes œuvres.
Encore une fois, je vais faire la même réponse que précédemment. Ce sont les personnages qui m'imposent leur point de vue. Et s'il y a un besoin de violence, je vais aller dans la violence, c'est sûr. Je ne vais pas édulcorer la violence parce qu'il y en a besoin à ce moment-là. L'histoire nécessite cette violence à ce moment-là. Je ne pense pas que je mette de la violence par calcul ou par complaisance, mais c'est simplement parce que dans les scènes de guerre, par exemple, ou dans les scènes d'affrontement, il y a une violence, elle est inhérente aux événements, mais simplement je la décris de mon mieux.
Romain.
Par rapport à la violence, c'est... J'ai du mal à la considérer en tant que telle. Enfin, la réponse va ressembler beaucoup. C'est-à-dire que soit ça doit arriver parce que c'est dans la logique des personnages qui se sont construits et ça arrive. Mais si c'est pas nécessaire, ça m'amuse pas plus que ça. Enfin, après, c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu des lecteurs qui sont venus vers moi en me disant oh là là, ce qui lui arrive à tel moment quand même. Vous êtes cruel. Et moi j'étais là. Je me disais, il y a plus dur quand même dans la culture en général. Ils pourraient arriver pire au personnage. Moi je vis pas nécessairement tel ou tel événement comme intrinsèquement violent. Enfin, je peux le vivre comme dur, comme un moment difficile de l'histoire, etc. Mais j'ai dans l'idée que. J'ai pas l'impression de faire de l'exhibitionnisme. Enfin voilà, c'est un truc. Si c'est la violence dans ce sens-là, dans ce sens choqué, voilà. Cette fois-ci, là maintenant, je vais choquer mon lecteur je vais faire le buzz, etc. C'est un truc que je comprends pas, enfin, narrativement, fondamentalement, ni en tant que lecteur, ni en tant que. Si quand j'ai l'impression de tomber dessus en tant que lecteur, le bouquin me tombe des mains, très honnêtement. Donc en tant qu'auteur, ça me. Non.
Alors, je dirais que, en général, dans la fantasy, je trouve que la violence est souvent liée à l'humain. On a rarement des violences dues à des glissements de terrain ou des tremblements de terre. Ou c'est vraiment l'humain, ou du moins un être pensant, qui engendre la violence. Même les animaux, en fantasy, on a tendance à les vouloir féeriques. Donc je pense que ça en dit pas mal sur notre façon de parler de l'humain, finalement, au travers de la fantasy. Et c'est peut-être pas très, très rassurant si la violence vient exclusivement des êtres pensants. Alors moi, dans Sénéchal, du coup, c'est vraiment la violence humaine, quoi. Pour moi, c'est les hommes qui engendrent ceci.
Bon, alors moi j'ai des romans violents, c'est terrible, alors j'ai une horrible réputation de sadisme qui n'est pas justifiée du tout, je suis d'une gentillesse totale, ça se voit. Et j'ai une approche de la violence qui est une approche assez artificielle, qui est une approche très, je vais pas dire esthétisante parce que c'est pas le but, mais aussi il y a des gens par exemple qui jouent aux jeux vidéo ici, la violence des jeux vidéo elle est totale et à la fois elle est hyper édulcorée. C'est-à-dire que si j'ai une scène de duel ou une scène de bataille, ça va saigner, c'est terrible, c'est d'une violence affreuse. Mais en même temps, c'est juste joli. C'est-à-dire que vous avez un coup d'épée avec une énorme giclée de sang qui va accompagner le coup d'épée. Le type va faire 3 tours sur lui-même, il va retomber, il va prendre des pauses. C'est joli. C'est totalement artificiel, c'est totalement littéraire. Je n'aime pas, en fait, le surréalisme n'est pas le terme, le surcroît de réalisme dans l'hyperréalisme dans la fantasy, parce que pour le coup on arrive à quelque chose de très d'un peu pervers justement. Donc on va voir le type à genoux en train de se vider de ses tripes et de compter tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc., et l'odeur et machin, les gens qui gerbent et tout. C'est pas du tout mon style. Je fais une violence un petit peu un peu jeu vidéo, un peu artificielle, qui reste quand même un petit peu dure par moment, donc je ne la conseille pas au public très très jeune. Mais on parlait de Game of Thrones tout à l'heure. Il y a une saison entière où quelqu'un qu'on ne va pas citer pour ne pas spoiler une vieille saison, quelqu'un dont le nom commence par G, qui se fait légèrement maltraité pendant une saison entière, qui perd ce qu'il a d'à peu près plus précieux. Mais c'est des heures et des heures de torture sur une saison entière. Ça m'intéresse pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est de la violence gratuite totalement. C'est du voyeurisme total. J'aime pas. Par contre, j'aime cette violence très esthétique du jeu vidéo qui a un petit côté plaisir coupable. Parce que vous dites, oh, mon héros, il a décapité 15 personnes dans la scène. Qu'est-ce que c'est beau ! Bon, en fait, c'est pas beau du tout.
Justement, il y avait eu cette polémique avec cette fameuse saison de Game of Thrones, où ils avaient rajouté des scènes, notamment des scènes de viol qui n'étaient pas dans le livre, et ça avait été extrêmement critiqué parce qu'il y avait un effet totalement artificiel, et juste pour justifier la méchanceté du personnage, alors qu'on avait compris que Bolton était totalement fou depuis le début. Pour vous, messieurs, c'est quoi un bon livre de fantasy épique ?
C'est une question dangereuse. Je suis pas content d'avoir le micro là tout de suite maintenant.
Alors Gabriel.
Un bon livre de fantasy, pour revenir à ce que surdisait Pierre tout à l'heure, c'est un livre qui va plaire au lecteur, c'est un livre que l'auteur prend plaisir à écrire et où lui-même insuffle le souffle épique qu'il a envie d'insuffler. Si ça prend, si la mayonnaise prend, si ça vous pousse dans le dos et que vous n'avez pas envie de le refermer, c'est un bon livre de fantasy épique. Je pense pas qu'il y ait d'exemple ni de contre-exemple. C'est bon. On peut partir du principe que quelqu'un qui vend des millions de bouquins a trouvé le truc et celui qui en vend 4, un peu moins. Mais d'une façon générale, il n'y a pas de règle pour ça. C'est vraiment, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça vous pousse, vous avez envie de le lire, vous avez envie de l'avoir en main. Vous ne pouvez pas le lâcher, dans ce cas-là, ça marche.
Je dirais qu'avec la définition que j'ai, moi, de la fantasy épique de tout à l'heure, c'est un bon livre de fantasy épique, c'est celui qui favorise l'immersion, mais presque totale, quoi. Au point où j'ai presque envie d'y aller dans cet univers, même s'il se passe des choses affreuses. Mais je pense à l'Arcane des épées de Tad Williams, que j'ai relu il n'y a pas très longtemps. Moi, je me voyais bien avec le nain Binabik, et puis ça louve Kantaka, et puis on y va. Allons trancher joyeusement du Nord, ce mec blanc avec les yeux bleus, quoi, qui ressemble étrangement au Marcheur blanc d'ailleurs. Mais. Ouais, je pense que c'est pour moi une bonne fantasy épique, c'est celle qui favorise l'immersion à fond. Et on a presque envie de se grimer en un personnage, quoi. Voilà.
Ouais, c'est pas mal ça. Mais ouais, alors là, oui, enfin, je vais pas faire une réponse originale. Un bon roman de fantasy épique, c'est en fait un bon roman. Point. Enfin, c'est ben non, mais c'est pas si c'est réaliste ou pas réaliste, parce qu'en fait. En fait, moi, j'ai été emmené par des romans complètement délirants et par des romans ultra terre-à-terre, méga documentés, etc. C'est pas long ou pas long. C'est pas, enfin, c'est effectivement. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que est-ce qu'il y a une esthétique qui touche, qui me touche en tant que, ben, voilà, qui fait correctement appel à mes sensibilités de lecteur, est-ce que les personnages me paraissent humains, est-ce que ce qu'ils font me paraissent sensés, est-ce que leurs problèmes me paraissent être des vrais problèmes, et est-ce que en fait ce monde que je vois se dérouler me paraît faire écho à quelque chose que j'ai l'impression de sentir sur le monde réel. Enfin voilà, moi c'est ça, mais enfin, encore une fois, c'est un rapport au bon roman en général, plus que spécifiquement à l'épique.
Qu'il est confortable d'être au quatrième parfois, quand nos camarades ont tout dit. Et en plus, on pourrait les résumer en disant que c'est un roman qui nous pousse dans le dos et qui nous entraîne dans son univers, un roman où on a envie d'aller, d'être, un roman où on a envie de suivre les personnages, donc c'est tout ça, tout ce que vous avez dit, c'est parfait, ça... Ça donne la définition parfaite d'un bon roman, mais aussi d'un bon roman de fantasy épique.
Pas mal, Pierre.
Mais ouais, non, je m'en tire à très bon compte, je suis conscient.
Mais tu vas garder le micro. Alors, on a de la chance, on a quatre auteurs avec nous. Ça va permettre d'un peu savoir aussi, toujours sur les coulisses, comment vous préparez, vous quatre, vos livres. C'est quoi le truc ?
Eh bien, un matin, je me retrouve devant mon ordinateur. Et je dis, j'ai promis un livre pour tel éditeur, mais il faut absolument que j'avance, et j'avance. Et bien, je suis en retard, là c'est, on est déjà au dernier carat, dernier délai. Je prépare très peu en réalité. Pour Arkane, j'avais fait un résumé vague à Stéphane Marsan parce qu'on avait ce projet. Il s'est passé un peu de temps et à un moment j'ai fallu que je m'y mette et je suis parti dans le projet avec assez peu de préparation. Mais moi, ça, c'est ma nature d'auteur. Hein. Je suis un auteur qui ne prépare pas. Je suis un auteur scripturant. Wow. C'est-à-dire qui part avec l'écriture. C'est l'écriture qui m'emmène dans l'histoire et qui structure mon roman au fur et à mesure, au point que je suis parfois obligé de mettre les noms des personnages et le nom des lieux sur un cahier ou un classeur à côté pour ne pas les changer en cours de route, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais monsieur, pourquoi votre personnage commence par ce prénom et finit par ce prénom? Ou alors celui qui est mort au 17e, pourquoi il se bat au 19e chapitre, ce qui est assez bizarre. Mais c'est de la fantaisie, vous comprenez? De la magie. Je suis même une caricature de l'auteur qui ne structure rien à l'avance, qui ne planifie rien à l'avance, et qui se retrouve parfois embarqué dans des impasses terribles et qui me laisse des insomnies des fois, parce que je dis comment je vais me sortir de cette histoire. Et le lendemain, je me remets devant mon ordinateur et comme par miracle, il y a une solution qui se présente. Voilà, c'est comme ça. Donc je prépare assez peu et au fur et à mesure, mon cahier ou mon classeur sort de notes pour justement donner une cohérence chronologique déjà ensemble, parce que je pense que le plus grand défaut de cohérence, c'est ce qui arrive dans la série Game of Thrones. Il y a des défauts de cohérence temporelle qui sont assez chronologiques, qui sont assez importantes par moment, et donc j'essaie d'avoir une vision chronologique d'ensemble, parce que partant avec mes personnages, je ne sais pas toujours le temps qui s'est passé exactement et tout ça, et puis je note quelques éléments pour ne pas oublier. Mon but, c'est de ne pas oublier ce qui est en train de se passer. Et le roman avance comme ça par l'écriture. Je prépare assez peu en réalité.
Romain ?
Alors, moi, il y a plein d'étapes. Outre le fait d'avoir une vague idée qui motive pour démarrer, je pose des premières notes, puis je les perds. Puis, alors, du coup, j'en repose des nouvelles, puis je trouve ça pas bien. Et du coup, je m'énerve et du coup, je commence à dessiner des cartes et à faire des chronologies et à noter des noms sur un grand schéma. Et je fais plein de lignes entre tous, puis après, je jette parce que je trouve ça pas bien. Et puis je me dis que quand même, je vais en écrire le début. Puis je commence à écrire et je trouve ça pas mal. Et puis je continue, puis des fois, je trouve ça pas bien, etc. Et moi, en fait, je suis semi-préparateur, Je prépare, mais beaucoup plus pour me rassurer moi-même que pour réellement détailler par le menu exactement tout ce qui va se passer. Je prépare pour me lancer, mais en fait, ce qui me plaît dans le roman final que je finis par obtenir, généralement, c'est ce que j'ai trouvé au cours de l'écriture. C'est ça qui me fait le plus rigoler. J'aime bien l'ensemble aussi, enfin j'ai quand même là où je me dis que quand même j'ai pas complètement perdu mon temps, c'est souvent les petites choses que je vais trouver sur chaque personnage, les petites lignes de dialogue, les petites branches que j'avais pas du tout prévues et qui en fait sont évidentes à l'écriture. Et puis comme on est quand même dans la fantaisie et dans de la construction de monde, c'est là aussi effectivement que je vais avoir un peu le sel, c'est-à-dire que je suis totalement incapable d'inventer un monde avant de commencer. C'est que quand les personnages commencent à jouer ensemble, que quand je commence à voir un peu la musique qui s'en détache, que j'arrive à voir les petites fioritures à apporter, les petits détails sympas, les petits trucs culturels, etc. Donc voilà, je suis moitié-moitié, moi.
Alors, c'est vrai que quand on a une fantasy épique et qu'on a un univers très vaste et qu'on aime le développer sur plusieurs romans, par exemple, moi, en tout cas, je fais différemment. C'est-à-dire que mon univers est déjà développé de base, c'est un terreau, c'est un socle. Et ensuite, je vais bâtir mes romans dessus. Donc, mes personnages arrivent après. L'univers a été pensé avant. Ensuite, je vais un peu reprendre ce que disait Pierre Bordage tout à l'heure, c'est que là, on essaye d'intellectualiser un peu beaucoup le processus d'écriture, mais c'est vrai qu'au moment où on le fait, je crois qu'on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de commettre. Hein. On y va un peu comme ça et on voit où ça ira. Alors, moi, je dirais qu'il y a quand même deux romans. C'est le roman où on connaît à l'avance sa fin, donc on va tendre vers celui-là, vers cette fin, et du coup ça, on va y aller à rebours comme un peu une enquête policière, enfin, on connaît la fin, on sait très bien où on va, et le roman où on ne sait pas du tout, et là ça va être on va voir ce que les personnages racontent et ça va bien m'emmener quelque part au bout d'un moment. Donc je pense qu'il y a deux types de romans. Moi particulièrement pour Sénéchal, c'est vraiment je connaissais sa fin dès le début, donc je tendais vers cette fin là. Là pour celui que j'écris en ce moment, j'avoue que voilà, je rencontre mes personnages, je leur dis bonjour et s'ils ne plaisent pas je leur dis au revoir, voilà. Mais
en ce qui me concerne, je travaille énormément, je travaille jour et nuit et je suis affreusement paresseux. Donc en fait, je ne prépare rien. Je n'ai jamais rien préparé de ma vie, donc ça n'a pas commencé maintenant. À l'école, c'était atroce, j'avais des notes correctes et j'avais des horribles appréciations dilettantes, machin, etc. Ça ne change pas. Donc mon premier bouquin, il est de 2013, j'en ai écrit 13 depuis, c'est pas si mal. Mais en même temps, ils sont à peu près jamais pensés. Ça ne vous donne pas envie de les acheter, je sais, mais c'est comme ça. Et en fait, ce qui... J'ai une image un peu poétique que j'utilise toujours parce que c'est très poétique les auteurs. Vous prenez un squelette de poisson, vous prenez dans une poubelle, vous avez la tête, la queue et les arêtes. C'est à peu près ce que j'ai. C'est-à-dire qu'au moment où je veux écrire un livre, je me dis bon, je sais d'où je pars, je sais où je vais et j'ai quelques scènes qui sont obligatoires, qui sont les arêtes du milieu. Et après, ça se tricote au fur et à mesure. C'est une façon de se surprendre soi-même finalement. On s'assied, on se dit voilà, je m'assieds là, c'est en train de s'écouler. Et puis finalement, lui, non, il va pas mourir du tout, il va faire un truc très important. Il devient important, il reste là sur 3 tomes, il construit une autre partie de l'intrigue qui n'est pas du tout prévue. Je me laisse un peu porter en fait. J'ai des idées au mauvais moment, comme souvent les auteurs. Alors vous les avez dans le métro quand il y a 150 000 personnes à Paris à sortir le téléphone pour essayer de prendre des notes en disant pour qu'on ne le pique pas. Vous les avez dans la douche en disant je ne peux pas graver sur un savon avec mon ongle, ça va être compliqué parce que maintenant il y a du gel douche. Donc dans tous les cas, c'est le moment où c'est pas bon, elles viennent. Ou alors la nuit, à 3h du mat, vous êtes à l'hôtel, ah, j'ai l'idée de l'année, donc vous réveillez, vous écrivez 3 trucs sur le téléphone, vous rendormez. Et le lendemain, elle est nulle l'idée, elle est super nulle, si vous n'êtes pas rendormi. Donc bon, c'est chaotique tout ça, donc c'est totalement chaotique, je ne vous conseille pas cette méthode d'écriture. Et il y a un deuxième truc qui me pousse derrière, dont Pierre parlait tout à l'heure et qu'on a tous, c'est l'éditeur, qui vous dit, t'as une date de sortie mec. Donc, ah oui, effectivement. Et donc, il vous reste 1 mois et demi pour écrire le bouquin. Donc, c'est jour et nuit, nuit et jour. Vous ne parlez plus à personne. Vous mangez, si vous mangez, j'allais dire, vous mangez plus, si vous mangez, mais vous ne dormez plus, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment chaotique. Et je crois que je prends mon plaisir comme ça, en fait. Si je faisais des préparations à la base, si j'avais des immenses carnets de notes, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Hein. Mais si j'avais ma feuille Excel avec tout ce qui se passe avant, je mourrais d'ennui, je n'écrirais rien du tout.
Et le fait d'être scénariste, ça a changé quelque chose ou pas?
Non, ça. Oui, ça change les angles d'écriture, en fait. C'est-à-dire que j'écris visuel, je pense visuel, j'imagine visuel, et d'une certaine façon, j'écris assez court et assez concis, de sorte à ce que, si possible, le lecteur ne se laisse pas endormir par plein de poésie que j'aurais envie de lui infliger, en fait. Disons que ça, c'est vraiment un travers de scénariste. Les scénaristes, on vous dit, si votre histoire tient, elle doit tenir à la minute près, et si par hasard quelqu'un détourne la tête, regarde son téléphone, votre film il est mauvais. Bon, je dis pas qu'en bouquin je suis comme ça, mais j'aime bien les choses assez courtes et assez rapides. C'est en ça que finalement le scénariste déteint un peu sur l'écrivain.
Et Pierre.
Rajouter quelque chose sur le scénario, le mot est gratuit. Ça c'est génial. Parce que le scénario, dès que vous faites une ligne, il y a une ligne qui va se superposer qui est celle de l'argent. Et vous dites l'armée c'était 1000 éléphants, 1000 chameaux, et le producteur dit non. Il dit non, on va faire ça avec un éléphant du zoo de Vincennes si vous voulez, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et donc on est, ça dépend de l'ampleur du projet et du montant que va allouer le producteur au réalisateur. Et là, vous êtes hyper limité. Enfin, je ne sais pas si Diane est d'accord, mais Gabriel est d'accord. Mais vous êtes un maillon d'une chaîne qui va disparaître à un moment, et vous êtes obligé de tenir compte de l'ensemble de la chaîne et de ce que va être le film et quel budget aura le film.
En fait, l'écrivain, il est maître de son livre. C'est magnifique, c'est merveilleux. On est tous maîtres de nos univers, c'est superbe. Le scénariste, c'est le contraire. Il ne dit rien, il avance, il baisse la tête. Et il y a toujours quelqu'un dans la pyramide qui le regarde. Non, c'est pas bien. Donc on refait tout 1000 fois, 10 fois, etc. Pas uniquement pour des raisons de budget, parce que tout d'un coup, quelqu'un n'aime pas votre histoire, etc. Donc Écrire en scénariste sur un bouquin, c'est exactement la même chose, sauf que je suis libre. Et si je veux une charge de 500 000 chevaux, eh ben, il y aura 500 000 chevaux.
Super, merci. Alors, on va peut-être passer à quelques questions-réponses, s'il y a des questions dans la salle. Pas de réponse, forcément. Est-ce qu'il y a des questions à nos amis ? Oui, parlez fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous... Quel est votre endroit préféré pour écrire de la fantasy, Grégory ?
Dans ma piscine de 10 mètres de long, n'est-ce pas ? Non, mon bureau. si, j'ai un peu de montagne devant chez moi, ça va, ça aide. Non, mais on croit, enfin moi en tout cas, je croyais beaucoup que ça aidait d'avoir un climat, un cadre fabuleux. Au bout d'un moment, quand on est vraiment dans le truc, qu'on soit dans le métro ou au sommet de l'Everest ou je ne sais où, ça revient au même. On finit par être en transe avec son histoire. Donc non, moi j'ai pas. Après, je sais pas.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Petite exception près, vous avez l'interférence extérieure. J'y suis affreusement sensible. Et généralement, à l'instant où je mets la main sur le clavier, il y a un mec dans la rue qui se dit « Je vais mettre mon marteau-piqueur là. » Et il fait « Et là, c'est fini, il n'y a plus rien que le marteau-piqueur. Mon histoire disparaît. Sorti de l'interférence, effectivement, Grégory a raison, ça peut être n'importe où. Une fois que vous êtes dans votre histoire, bon, si c'est au sommet d'une montagne, ça peut être très très joli, c'est chouette, on s'arrête, on joue avec les bouquetins, mais honnêtement, c'est pas nécessaire.
Romain.
Et moi, la semaine prochaine, je vais voir si en haut du donjon de Guédelon, si ça marche bien. Mais à part ça, non, pas d'endroit. La question de la musique aurait peut-être été plus juste. Mais l'endroit, effectivement, non, moi, j'ai les scènes épiques, elles ont été faites en café, dans des parcs, à mon bureau. En Ardèche, enfin vraiment, bref, voilà.
Cependant, je suis comme mes camarades, je travaille dans mon bureau tous les jours et c'est l'endroit le plus sympa pour moi pour travailler parce que simplement j'ai tout médicaux, enfin tout mon matériel à disposition et que j'ai un peu de mal à écrire en dehors de cet espace. Mais j'ai constaté que j'ai passé 2 ans aux États-Unis et j'ai écrit des livres aux États-Unis et bizarrement, alors que j'étais pas forcément devant le Grand Canyon ou devant Monument Valley ou des paysages aussi spectaculaires que ça, ils se retrouvaient dans mes bouquins. Ces paysages se retrouvaient dans mes livres comme si j'avais été influencé par l'environnement. Et dans un livre qui s'appelle Orchéron, qui est une sorte de suite d'Absalon qui se passe 1000 ans après, et ben on retrouvait tous ces éléments des États-Unis sans que, de façon inconsciente, il y avait des sortes de bisons qui s'appelaient des Yanks dans mon bouquin. Il y avait un Grand Canyon, il y avait tout ce qu'il faut des États-Unis. Et je m'en étais pas rendu compte. Et peut-être qu'on est malgré soi influencé par son environnement et on ne se rend pas compte des choses. Quoi.
Et sur la musique, très bonne question finalement, Romain.
Qui... Moi j'écris sans musique.
Sans musique.
Alors ça a peut-être été surprenant, mais surtout pas de la musique de film. Parce que c'est la musique de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je crois que les trucs épiques, je me demande si je les ai pas écrites sur quelque chose le plus comment dire lancinant possible, mais par contre il y avait quand même de la musique. Mais effectivement les quelques fois où j'ai essayé de je me suis dit je vais mettre Howard Shore ou John Williams pendant que j'écris la charge de cavalerie, c'était pas possible parce que c'était en fait c'était pas juste la charge de cavalerie, c'était la charge des Rohirrim en fait, très 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 précisément. Donc ça me sortait totalement de mon histoire. Et donc, j'ai beaucoup fait marcher les albums de Silly Gonzalez, mais sinon la musique de jeux vidéo souvent marche à peu près bien. C'est suffisamment plat, mais en même temps suffisamment sympa pour que ça me tienne concentré.
Grégory ?
Oui, j'écris avec de la musique, mais c'est parce que je vis chez mes beaux-parents et ils apprennent la guitare, donc... Non, mais j'essaie d'éviter la musique parce qu'elle m'influence beaucoup. Et si je mets en lecture aléatoire, au bout d'un moment, je vais oublier qu'elle est là. Mais en fait, il y a juste cette ambiance qui va m'entraîner. Alors, un truc que je voulais épique, si la lecture aléatoire me met une musique triste, ça va pas se transformer en épique. Il va juste y avoir un mort et tout le monde va pleurer. Donc, j'essaie d'avoir le silence. Et là, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient avec son marteau-piqueur ou sa guitare. Mais voilà.
Et enfin, Gabriel.
Et enfin, j'ai un cerveau musical assez absurde qui fait que j'écris en musique, effectivement, mais c'est très rarement dans le thème. C'est-à-dire que, si vous lisez Le Serment de l'Orage, en gros, on est dans une ambiance un peu écossaise, pluvieuse, Angleterre médiévale, c'est dans la boue, c'est ça. Le ciel bat, l'orage, etc. J'ai écrit ça principalement sur Eminem, voilà. Comment vous dire, vous avez Lose Yourself derrière dans les oreilles, c'est un truc qui casserait les oreilles de n'importe qui. Qui m'a porté tranquillement sur des endroits hyper sombres comme ça, terribles. Ça, je me suis tapé du Requiem de Mozart au milieu aussi. Ça veut vraiment rien dire, donc je ne sais pas, c'est comme ça vient. Je sais en tout cas que je me suis acheté un casque anti-bruit dont j'étais hyper fier, qui est fait par Sony, qui coûte la peau de mon... voilà. Et en fait, ils l'ont très mal conçu, c'est-à-dire qu'ils laissent passer les voix. Donc vous allez dans un café, vous n'entendez plus rien, plus des bagnoles, rien du tout, vous avez votre musique et vous entendez tout le monde qui parle autour. Elle va bien ta belle-mère ? Donc voilà, c'est compliqué d'écrire.
Ce sera le mot de la fin. Merci.
C'est terrible, pardon.
Merci Pierre Bordage, Romain Delplan, Grégory Darroza, Gabriel Gatz.